Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait aborder en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et également entre la Russie d'une part et le camp occidental d'autre part. L'Iran s'oppose à la guerre où que ce soit, en Ukraine, en Irak, en Syrie et ailleurs. C'est la position officielle de Téhéran qui a été affichée par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei. En Asie de l'Ouest, a affirmé l'ayatollah Khamenei, souvenez-vous de la somme de crises que les Américains ont générées, où ils ont fini par créer Daesh, leur progéniture, qu'ils ont filmé en train de décapiter les gens, de brûler de vifs, de les noyer. Plus ils ont diffusé des atroces images. Sans crise, a martelé le leader de la révolution islamique. Les États-Unis ne pourraient vendre des armes, et ceci est leur sort indéfectible. Cette crise en Ukraine, a-t-il précisé, est l'une des émanations de cette même politique foncièrement belliciste. L'Ukraine en est aujourd'hui la victime. Ce sont les États-Unis qui ont poussé l'Ukraine au bord du près de précipice en s'ingérant dans ses affaires intérieures, en y provoquant des troubles sociaux, des révolutions en velours ou colorées. Et on se rappelle comment les sénateurs des Américains s'affichaient en tête des cortèges. Il va sans dire, a fait remarquer le leader de la révolution islamique, que l'Iran s'oppose foncièrement à la guerre, ou qu'il soit. Et ceci est un principe indéfectible de notre politique étrangère. Dans le même temps, il y a eu ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah. Seyed Hassan Nasrallah qui a en fait évoqué ces déclarations du leader de la révolution islamique, et qu'il a confirmé d'ailleurs en réitérant, je cite, que Washington a tout fait pour conduire le déroulement des choses vers la situation dont on est témoin aujourd'hui. Il sera prêt à tout essayer encore pour compliquer davantage la donne. Toujours est-il que ceux qui ont mis de l'espoir dans des politiques des Américains, ceux qui leur ont fait confiance, ont une grande leçon à tirer de ceux qui est en train de se produire aujourd'hui, a-t-il précisé encore. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Pierre Dortillier. Monsieur Dortillier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher monsieur Norostine, et bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortillier, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Bernard Cornu. M. Cornu, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
M. Cornu, je viens de lancer le sujet de cette guerre en Ukraine, ces réactions, si vous voulez, à cette guerre. Quelle évaluation portez-vous en fait sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, s'il vous plaît, également, si c'est possible, un mot sur cette position officielle de Téhéran, s'il vous plaît.
Voilà, je suis aussi très triste de cette nouvelle guerre qui va faire des victimes, qui va faire des dépenses. Dans lequel l'Europe réagit en mettant un peu d'huile sur le feu, en fournissant des armes. Bien sûr, c'est positif d'accueillir les réfugiés, les déplacés temporaires, mais l'Europe devrait surtout mettre l'accent sur des négociations, sur des positions indépendantes de l'OTAN et des États-Unis. Et l'Europe aurait dû convaincre les États-Unis de répondre positivement à la demande de Poutine de s'abstenir, que l'OTAN s'abstienne de tenter ou d'envisager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, suite aux progrès depuis deux décennies des pays membres de l'OTAN vers l'Est, donc aux frontières de la Russie. Voilà, c'est l'essentiel que je veux dire. Je veux dire aussi que la plupart des commentateurs français, des médias, ont omis de reproduire une phrase essentielle du discours de M. Poutine, qui était agacé par la non-réponse positive de l'OTAN et de l'Europe, où donc M. Poutine a évoqué tous ses précédents de la guerre en Yougoslavie pour détruire la Yougoslavie, et ensuite de la guerre en Irak, illégale en 2003, complètement illégale, à l'époque refusée par l'essentiel de l'Europe, et de la guerre en Libye qui a été provoquée, hélas, par la France et le Royaume-Uni sur de mauvais prétextes, au lieu de pousser à des négociations sur ce sujet de géopolitique. L'Europe a des positions qui ne sont pas positives.
Et là, M. Cornute, si je vous ai bien suivi, vous adhérez à cette politique, si vous voulez, de Téhéran, qui consiste à dire que voilà, il faut s'opposer à la guerre ou qu'il se produit, mais il faut également s'attaquer, si vous voulez, aux origines, si vous voulez, du problème. Et s'agissant, si vous voulez, de l'Ukraine, on dit que voilà, le problème vient également de ces agissements de l'OTAN, de ces ingérences de l'OTAN et des pays occidentaux dans les affaires intérieures d'autres pays, M. Cornu.
Tout à fait, tout à fait. Non seulement des agissements intérieurs, mais des agissements secrets pour changer des régimes. C'était un vieux plan américain des années 90 et 2000 de faire changer plusieurs régimes qui ne leur convenaient pas. Et il est avéré qu'ils ont financé, souvent en collusion avec les pays arabes pétroliers autocratiques de la péninsule arabique, pour financer des déstabilisations, financer des mercenaires venus de très nombreux pays pour déstabiliser des pays entiers. Afin de répondre à cet objectif de changement de régime dans les régions, notamment les pays qui s'opposaient encore à la mainmise de l'État israélien sur toute la Palestine historique et mandataire.
Monsieur Dortiguier, vous venez d'entendre les explications de Monsieur Cornu. Permettez-moi également de dire cela. Il y a ceux qui disent que voilà, il faut de s'opposer à la guerre, et cette guerre contre l'Ukraine est quand même une violation de la souveraineté d'un autre pays. C'est en fait de l'avis de certains analystes. Il y a ceux qui disent que voilà, c'est vrai, mais quand même le problème émane, si vous voulez, de cette politique belliciste de l'OTAN et des États-Unis qui cherchent, si vous voulez, à procéder à des actes de provocation contre la Russie. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, en effet, M. Narostine. Cette guerre est une... comment dire ça en un mot, a été, disons, aurait pu être évitée, bien sûr. Et on a jeté, disons, c'est le tort des États-Unis d'Amérique, évidemment, de ce qu'on appelle l'Occident, entre guillemets, d'avoir versé de l'huile sur le feu. Alors, verser de l'huile, ça permet d'accroître le feu. Mais il y a également un déséquilibre fondamental, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont, à l'intérieur de l'Ukraine, joué, si je puis dire, aussi à un double jeu. C'est-à-dire, ont défendu les intérêts populaires, puisque l'Ukraine, contrairement à ce qu'on dit, comme la langue ukrainienne, est distincte, ça ne veut pas dire opposée, mais distincte de la Russie. Vous savez que jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'Ukraine était sur les cartes de géographie, représentée, j'ai encore une carte anglaise sous les yeux, comme appartenant, étant influencée par l'Empire ottoman, vous savez, avec une grande influence tatare, etc. Bien, ceci, bien sûr, est tout à fait ignoré de l'opinion publique. Ce qu'il y a, c'est que de la part des Russes, autour de M. Poutine, il y a également des bouts de feu. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre certains groupes aux États-Unis et à l'intérieur de la Russie, je ne peux pas préciser, qui ont intérêt à ce que les événements suivent cette voie, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une sorte de guerre constante, disons, pas de guerre froide, mais d'affrontement, voyez-vous. Je n'en veux pour preuve que le fait que tout le processus législatif à la Douma russe, qui a donné une assise, disons, légale, on pourrait dire républicaine, enfin, à l'action des troupes russes, disons, à l'action de M. Poutine, a été présenté, il faut le savoir, par un petit parti dont vous connaissez le nom, bien sûr. C'est le Parti communiste. Le Parti communiste qui existe, qui est le Parti communiste donc, de la Fédération de Russie. Alors, en ce sens, on peut dire qu'il y a des forces à l'intérieur même de la Russie, voyez-vous, qui ont intérêt à dévier la Russie d'une politique nationale et pour pouvoir en entente avec les Américains, bien sûr, en collusion, même objective, pour pouvoir maintenir un foyer, disons, de tension. Je dois dire que l'attitude israélienne à ce domaine, je veux dire, de l'État d'Israël, est très caractéristique. Vous avez, par exemple, des interdictions qui ont été faites et obtenues de la part d'Israël aux États-Unis, je dis bien interdiction demandée par Israël aux États-Unis de fournir à l'État ukrainien, comme aux États baltes, par exemple, ce qu'on appelle des batteries qui forment le dôme de fer, voyez-vous. Bien. Alors ceci, il y a un double jeu. C'est ça.
Et s'agissant, Monsieur Dortiguet, s'agissant de ce double jeu auquel vous faites allusion, le leader de la révolution islamique aussi y a fait des allusions en disant que voilà, même c'est Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, y a fait des allusions qu'en quoi il faut laisser de côté, si vous voulez, ce double standard, ce double jeu, cette politique dite deux poids, deux mesures. Par exemple, le leader de la révolution islamique a dit que voilà, nous opposons à la guerre où qu'il soit. Et ceci est un principe irréversible de notre politique. Là, je cite le leader de la révolution islamique. Que font les Américains en Afghanistan, en Syrie ou en Irak? Au nom de qui et quoi se permettent-ils de piller le pétrole irakien? Pourquoi s'accaparent-ils des avoirs, si vous voulez, des Afghans? Pourquoi défendent-ils les crimes constants des sionistes dans la région? Cette politique de deux poids, deux mesures, ce double jeu est quand même dénoncé, condamné du côté de Téhéran et de plusieurs autres pays de personnalités, M. Dortiguet.
Oui, et avec juste raison, je dirais même que, je citerai, cela peut vous surprendre, mais un homme politique, mais un philosophe fort connu chez nous en Europe, qui est Martin Heidegger, qui a parlé de cela dans un cours qu'il a fait en 1940 sur ce qu'il appelle la politique des puissances. C'est-à-dire, cette politique de puissance consiste à interdire à autrui ce que l'on fait soi-même, c'est-à-dire à se réclamer des droits de l'homme, voyez-vous, pour pouvoir condamner ce que fait autrui, mais en fait, ne se réserver pour soi-même, bien sûr, d'être au-dessus des partis. Heidegger donnait comme exemple l'attaque de la flotte française, par exemple, vers Saint-Kébir, une flotte désarmée, etc. Et ceci est constant dans ce qu'on appelle, dans la période qu'on appelle le nihilisme européen, enfin ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'on on accepte les valeurs pour soi, mais on les nie à autrui, voyez-vous. C'est-à-dire que, voyez-vous, c'est un langage, comme on dit, à double standard, voyez-vous. Ça, c'est une mauvaise foi, voyez. Et ceci est, bien sûr, le propre en particulier des Américains, puisque les Américains sont à la tête, disons aujourd'hui, de ce conglomérat qu'on pourrait appeler capitaliste, etc. Mais ils ont, à mon avis, voulu entraîner la Russie dans un piège. Voyez, et à travers la Russie, bien sûr, tous ceux qui sont autour d'elle, pour déconsidérer, disons, les pays qui sont autour d'elle. Et je crois que j'ai eu une parole du chancelier d'Allemagne aujourd'hui, donc, qui est M. Olaf Scholz, qui dit: nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Eh bien, cette ère en question, c'est une ère de préparation, disons, de tension continue, qui sera présentée comme un danger permanent de Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous allons vivre, je crois, c'est en fait objectif, voyez, derrière ce spectre, voyez, et l'opinion publique sera désemparée, véritablement désemparée. Je reconnais, par exemple, que M. Poutine a dit des choses qui étaient justes. Par exemple, je citerai un discours qu'il a prononcé en 2017 à Valdaï au cours d'une conférence en disant disant que l'Occident avait perdu ses valeurs chrétiennes, etc., etc. Bien. Et d'autre part, voyez-vous, il y a les peuples de, comme on appelle, d'Ukraine, comme ceux de Pologne aujourd'hui, comme ceux de Hongrie que je connais, craignent qu'il y ait une résurgence de la politique soviétique, voyez-vous. Et tout ceci a été organisé par des trucages. Les gens ne connaissent pas le fond des choses, voyez-vous. Et alors, on cite, je reconnais que là, c'est une erreur de langage. On vous parle de la dénazification de l'Ukraine. Je peux vous dire que ces fameux nazis ukrainiens, si je vous donnais le nom de leur directeur, qui est le chef de l'équipe d'ailleurs de football de Kiev, eh bien évidemment, vous le verriez plus près de Tel Aviv que de Londres, voyez-vous, que de Paris. Oui, ça, c'est vraiment... Je vous assure qu'on vit dans une période de mensonges, de flou, et que le but est évidemment de développer une course aux armements. Et cette course aux armements a été bien marquée par le fait que l'Allemagne, par exemple, a décidé de se réarmer. Ça, c'est un phénomène qui était inimaginable depuis la
fin de la guerre. Permettez-moi d'avoir en fait l'approbation de M. Cornu également sur ce point que venait en fait d'évoquer tout à l'heure. L'objectif en est-il, M. Cornu, comme l'a dit tout à l'heure M. Dertiguier, de provoquer cette course aux armements, s'il vous plaît.
C'est sûr que la politique américaine est très influencée par les lobbies de l'armement et qui sont financés par un énorme déficit budgétaire américain, donc avec le consentement passif du reste du monde qui utilise toujours le dollar pour les transactions sur le pétrole et financières. C'est une chose. Sur la deuxième cause de ce déclenchement de ces guerres, c'était, vous avez évoqué, disons, des combats et des provocations dans les parties est, donc russophones, les oblasts de Luhansk et de Donetsk. Je ne suis pas exactement sur le terrain pour vérifier, mais il est sûr que depuis 2014, les combats perduraient dans cette région-là, donc au détriment des populations civiles, parce que le nouveau président ukrainien n'a pas du tout avancé pour appliquer les accords de Minsk qui prévoyaient une réforme constitutionnelle pour avoir une certaine régionalisation de la constitution en Ukraine, afin que cette partie russophone ait droit à une certaine autonomie de ces provinces pour respecter effectivement ces traditions plutôt russophones. Voilà. Et que le président ukrainien n'ayant pas du tout avancé sur des accords de Minsk, sous prétexte de demander un désarmement préalable des mouvements d'opposition installés dans cette partie est de l'Ukraine, la situation est bloquée et ni l'Allemagne ni la France n'ont fait l'effort de faire avancer cette réforme constitutionnelle. Voilà la source des problèmes, c'est une passivité, une certaine passivité de l'Allemagne et de la France qui ne sont pas poussées à faire pacifier cette région, à trouver des solutions pacifiques, constitutionnelles, pour résoudre le conflit à l'intérieur de l'Ukraine. Je pense que si la France et l'Allemagne avaient beaucoup plus poussé à l'application stricte et séquencée des accords de Minsk, on n'aurait pas eu cette dégradation de la situation dans ces parties est de l'Ukraine. Et ça aurait été un prétexte de moins. Lui-même l'a dit d'ailleurs qu'il est frustré que l'application des accords de Minsk n'est pas à la faute de l'autorité, disons, au pouvoir, du gouvernement au pouvoir en Ukraine.
Monsieur Dertiguier, vous l'avez dit tout à l'heure, que comme quoi, en fait, selon vous, il y a ceux aux États-Unis, en fait, qui ne souhaitent pas la fin de cette guerre en Ukraine, de cette crise entre Kiev et Moscou, et le leader de la révolution islamique aussi dans son discours a dit que les États-Unis, en fait, s'alimentent, si vous voulez, des crises. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai qu'ils s'alimentent des crises. ils pourraient vivre d'ailleurs sans. Sans mais ils sont les États-Unis, d'abord sont-ils, je parle des hommes d'affaires américains, est-ce qu'ils sont véritablement maîtres de leur situation aux États-Unis? Ça serait à voir. Est-ce que les États-Unis, en somme, sont maîtres chez eux, maîtres de leur politique étrangère? Vous savez, on parle toujours nous parlons nous-mêmes, disons, depuis, en parlant avec vous à la radio, depuis des années, des néoconservateurs américains. Ces néoconservateurs américains, faut-il le rappeler, ne sont pas à prendre au sens ordinaire du terme, comme des réactionnaires, non. Ce sont des trotskistes, c'est-à-dire des gens qui prônent la révolution permanente, c'est-à-dire l'agitation permanente. Il y a, bien sûr, comme l'a dit M. Cornu, il y a les intérêts du lobby industriel, bien sûr, lobby de l'armement. Mais je pense qu'il y a plus que cela. Malheureusement, plus que cela, il y a une idéologie qui utilise les États-Unis d'Amérique exactement comme elle utilise d'autres nations, voyez-vous, pour pouvoir maintenir dans le monde, alors là, cette instabilité, et afin de couvrir leurs propres crimes. Bien, je ne veux pas insister, vous le savez, en Orient, comment la situation se présente. Je dirais même que, puisque nous n'avons que quelques minutes, que par exemple, dans la stratégie sioniste, je crois que la stratégie sioniste consiste à, disons, trouver un appui, à avoir les mains libres en Orient et à apparaître, disons, comme une sorte d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Je crois que là, c'est un danger très, très grave pour l'Iran même. C'est-à-dire qu'il est fort possible qu'on dérive la colère, pas la colère, le conflit, on peut dire larvé, enfin, visible entre les États-Unis et la Russie, on le dérive, disons, vers des concessions, voyez, qui soient, disons, hostiles, enfin, aux intérêts des peuples orientaux, en particulier du Liban, de la Syrie et de l'Iran. Et je crois que je crois qu'il ne faut pas oublier, disons, ce que j'appellerais le front moyen-oriental dans cette affaire-là. Ce n'est pas une simple affaire d'une querelle de deux nationalités, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Il y a derrière, c'est ce qu'a voulu dire, à mon avis, le guide suprême, une stratégie internationale.
Merci infiniment, M. Pierre Dortillier, d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Bernard Cornu, d'avoir été par Skype avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.